C'est Alexandra Aina qui va venir tout de suite nous présenter son petit film d'enquête justement sur le projet Peintre, donc la fabrique de la science. Voilà, Alexandra qui appartient donc à la cellule CNRS Images. On te laisse présenter le film, après quand tu veux tu le lances et puis le jeu des questions-réponses je pense va faire le reste.
Bon, bonjour. Et ce film-là, il a été fait sur le terrain de recherche de Pend. C'est un reportage, il dure 8 minutes. Et on a suivi Solveig et Luc pour ce reportage de 7 minutes. Voilà, plusieurs reportages se retrouvent sur le site, sur Internet, CNRS Le Journal.
Quand on pense au patrimoine culturel français, on ne pense pas vraiment au punk. Et pourtant, contre-culture née dans les années 70, courant musical, phénomène artistique, mode de vie, le punk est aussi devenu un véritable objet d'étude pour les chercheurs. Aujourd'hui, la musicologue Solveig Serre et l'historien Luc Robben se retrouvent avec le doctorant Manuel Roux à la Rock School Barbet, un des lieux incontournables de la scène punk bordelaise. Ils viennent recueillir des sources historiques, un trésor pour ces scientifiques. Depuis 2013, l'équipe de recherche sillonne l'ensemble du territoire français à la recherche de sources comme celle-ci.
Voilà, un label rock bordelais s'impose sur le marché du CD. C'est déjà en soi un titre intéressant.
De Paris à la bourgade du Val d'Ajol, du punk des villes au punk des champs, l'objectif, retracer 40 ans d'histoire de la scène punk en France. C'est la première fois qu'une étude française de cette envergure se consacre à ce mouvement. Le nom du programme, Punk is not dead, le punk n'est pas mort. Hybride, insaisissable, artistique, politique, précurseur, en perpétuelle réinvention. Comment définir le punk ?
C'est une pratique musicale, une musique qui exprime une rage, une rébellion, une posture de refus des codes. Et donc, on peut considérer que cette musique-là et ce mouvement et cette posture constituent des prismes fondamentaux pour regarder le fonctionnement des sociétés et regarder un petit peu comment des gens, à un moment donné, vont décider de faire autrement.
Au début, c'est une révolte qui est musicale, c'est-à-dire qu'on est contre la musique des aînés, la musique des groupes qui jouent pendant 20 minutes en sachant très très bien jouer de la musique, qui ont fait le conservatoire, etc. C'est une vraie révolte aussi parce qu'on n'a pas, par exemple, de locaux pour répéter, pour jouer. Donc on va prendre une guitare, on ne sait pas jouer, puis on va le faire. Même si on ne peut pas, on va le faire. Ensuite, dans les années 80, ça va dire des choses beaucoup plus politisées. Toute la vague anarcho-punk, la jeunesse emmerde le Front National, etc. Là, on est dans une dénonciation de la société, du racisme, de toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, ça dit encore des choses différentes. Aujourd'hui, ça parle beaucoup d'écologie, de thématiques qui auraient beaucoup fait rire, je pense, les punks de 1976. On revient un peu à la contre-culture des gens qu'on haïssait, parce qu'il y a un slogan qui dit qu'un bon hippie est un hippie mort. Et aujourd'hui, cette troisième génération, finalement, elle revient assez au hippie. Comme le punk a pour idéologie la débrouille, on fait avec très peu de moyens. Donc évidemment, on fait sur des supports non nobles qui vont passer très vite. Et donc, il y a aussi une urgence parce que ces supports-là, ces sons-là, si on ne les collecte pas maintenant, les photos, elles deviennent toutes rouges, jaunes. Enfin, on ne pourra plus écrire cette histoire, donc on est pressé.
Hop, ah ouais, non. Ouais, on va le bouger, ouais.
Fanzine, photo, cassette, dossiers de presse, documents administratifs, à travers les archives déposées dans ce garage, la Rock School Barbet se livre peu à peu à Pierre Rabou et Manuel Roux de l'équipe Punk is Not Dead.
C'est toi, carnaval
des dérives. Ouais, là c'est moi. Mais des fois c'est eux. Voilà, par exemple, là c'est eux.
C'est que des affiches de Barbet ou il y a aussi ils ont récolté des affiches pour d'autres gens qui
regardent. Non, c'est vraiment les affiches des événements de Barbet quoi. Bon, voilà, regarde là, tu vois, ça commence à se détériorer. Alors là, c'est le rapport au commissaire aux comptes. Voilà, les amortissements. Et là, tu vois, là, c'est toutes les subventions. En
fait. L'équipe a lancé un appel public afin de recueillir des archives personnelles. Enregistrements audio, vidéos, magazines. Grâce à une vingtaine de journées d'études depuis le début du projet, l'équipe récolte aussi des témoignages.
Des rivalités quand même, bon enfant, et on se retrouvait tous...
Une science participative où acteurs de la scène et de la recherche se réunissent.
Et nous, on a exercé notre droit culturel. C'est-à-dire que nous, ce qu'on voulait, c'est des lieux pour que nos musiques soient entendues dans de bonnes conditions, soient pratiquées, soient transmises, soient répétées, soient... C'est ça qu'on voulait. On ne voulait pas faire du fric. On n'en a rien à branler de faire du fric. On aurait pu faire du fric. Mais on n'a pas fait. À une époque, on aurait pu choisir d'être...
À l'heure actuelle, l'équipe a rassemblé l'ensemble de ses fonds à Versailles, dans les locaux de travail de Solveig Serre. Ce n'est que le début d'un vaste chantier de préservation et de conservation d'un patrimoine culturel fragile.
Mur des archives que j'ai classé. Donc on a ici
l'état de majesté.
Prochain défi pour l'équipe, la création d'un centre de ressources et de recherche dédié aux cultures alternatives, une maison du punk.
Ce projet, il est exceptionnel parce qu'en fait, ça n'a jamais été réalisé. On est sur les contre-cultures, sur le punk, et personne n'a jamais rassemblé ces archives, ne les a pas fait surgir, ni rassembler, ni proposer cette manière de collecter, de mettre à disposition tous ces fonds. Voilà, donc cette maison du punk, elle est fondamentale pour nous. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait et qui mérite d'être fait, parce que si personne ne le fait, tout ce pan de la culture en France disparaîtra.
Mais le projet Punk is not dead n'est pas qu'un simple programme de conservation du patrimoine français. Voilà. Le cœur du projet, engager une réflexion plus large sur les formes de résistance, d'innovation et d'inventivité de toute société, en France comme ailleurs.
Bon, ça c'est les flyers, donc les flyers qu'on a pu...
Dans différents concerts.
C'est ça.
Bien entendu, le fait que le punk ne se limite plus aujourd'hui à des sociétés industrialisées telles qu'on les conçoit, épicentre occidental blanc, mais qu'il y a des punks partout, en Iran, en Chine, qui risquent leur vie, pour le coup, montre à quel point cette matrice de résistance, de révolte, de rébellion, cette manière de dire non, cette manière de dire je serai libre, est essentielle, pas seulement à la société française, pour le coup, mais pour le monde, hein, dans la manière de réinventer une façon d'être ensemble et de réfléchir à un monde à construire, hein, pour le dire très, très simplement. Alors oui, le punk est essentiel dans ce sens-là. Je l'analyserai comme ça, en tout cas.
C'est important de s'intéresser à ces marges. Et en fait, ça grandit une société de considérer ces marges. Voilà, c'est vraiment l'un des enjeux du projet, c'est celui-là. La marge ne dit que ce qu'il y a de problématique vis-à-vis de la société. Et donc, nous, on a la petite prétention d'écrire une histoire de France, mais un peu décentrée.
Bon, voilà, alors c'est le défi, ça dure 7-8 minutes, et en 7-8 minutes, l'objectif c'est de reprendre toutes les problématiques, un sujet, pas toutes, on essaie d'avoir un état d'esprit, enfin une ambiance, c'est-à-dire les plus fortes problématiques d'un sujet qui reprend l'histoire du punk sur 40 ans. Donc moi je viens pas du punk du tout, donc du coup j'ai vraiment eu un contact très très proche avec Solveig et Luc pour comprendre l'enjeu de cette recherche et comment dire les questionnements que pose cette recherche encore aujourd'hui, entre hier et aujourd'hui. Donc l'idée c'est de parler dans ce sujet du terrain de recherche et d'avoir une analyse du regard que posent les chercheurs sur leur propre terrain. Moi, c'est ce qui m'intéresse beaucoup. Et là, j'ai découvert avec le punk un prisme nouveau pour regarder la société. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse aussi dans l'absolu. Surtout dans les films, comment dire, de sciences sociales, humaines et sociales, on ne sait pas tout quand on ne sait rien quand on ne sait pas tout. Et là, j'avais un prisme nouveau qui était devant moi. C'est ce puzzle de prisme, moi, qui m'intéresse. On construit avec tous les regards le champ de la connaissance. C'est ce qui m'a un peu motivée et qui me motive, en fait, dans ce travail, en fait. Voilà. Si vous avez des questions...
Ouais, juste un commentaire, parce que c'est une vraie question sincère de ma part. C'est, je me suis demandé, parce que, bon là, vous voyez 7 minutes de film, mais en fait, ils ont tourné je ne sais pas combien d'heures, quoi. Donc, en gros, il y a énormément de rush. Et alors aussi, ce que tu n'as pas dit, Alexandra, ou alors j'ai eu un moment d'absence, mais il y a une équipe hein, avec toi, donc y a, peut-être qu'on pourra, tu pourras les présenter, parce que c'est vraiment des gens incroyables, quoi, d'un point de vue technique, hein, ce que fait un caméraman, ouais, ce que ouais. fait, moi j'étais, on a vécu avec eux, quoi, la prise de son, etc. Et alors la question que je voulais te poser, ouais. c'est comment on s'y retrouve dans ce bain de rush à un moment donné pour justement choisir ce qui est pertinent, ce qui va être, parce que il y a à la fois la pertinence, je dirais scientifique, méthodologique, mais il y a la pertinence propre à votre métier qui est la médiation scientifique, c'est-à-dire le truc qui va faire mouche, l'image, voilà, comment vous bossez, comment t'as bossé, et est-ce qu'il y a des gens de l'ombre, parce que nous on a vu Denis et Steve, mais je pense que vous êtes en fait vachement plus nombreux, donc est-ce que tu peux nous décrire un petit peu cette fabrique de l'image scientifique en quelque sorte?
En fait, l'unité audiovisuelle du CNRS, c'est une unité historique et je pensais à la façon dont tu as parlé de l'immersion de l'ethnologue. En fait, c'est une unité qui a été créée il y a très longtemps par Jean Rouche qui parle d'anthropologie participative. Et donc cette unité, elle est historique maintenant, elle date et elle est toujours là. Et ce qui est rare, parce que souvent les unités audiovisuelles ont tendance à disparaître au fil du temps et à être externalisées. Donc cette unité, elle a quand même un état d'esprit et elle a quand même une équipe en interne au CNRS. Donc il y a un directeur de production, des chargés de production, un rédacteur en chef, une équipe des caméramans, des monteurs, des réalisateurs maintenant. Enfin, il y a toute une équipe qui est là pour, au sein du CNRS, pour faire une veille scientifique sur toutes les disciplines. Donc c'est ça la chance aussi, et on est privilégié d'aborder la biologie, l'ethnologie. Donc en effet, il y a beaucoup de personnes de l'ombre. Et l'équipe qui est venue sur Pind, en fait, c'est une équipe d'intermittents du spectacle, parce qu'on embauche aussi des cadreurs et des monteurs... et des preneurs de son intermittents. Et derrière, il y a eu une écriture quand même. Avant de partir en tournage, j'ai écrit le film en relation avec le rédacteur en chef sur la façon dont on va valoriser cette recherche et ce qu'on va y mettre sur 7 minutes, qui est quand même un défi pour essayer de garder l'esprit du terrain de recherche. Donc vraiment, on est en relation totale avec les chercheurs pour savoir si ça leur convient eux aussi et s'ils valident ce qu'on est en train de transmettre de cette recherche et puis de leur image aussi. Voilà, puisque derrière, il y a des enjeux de recherche, de financement de recherche pour eux. Et on comprend bien puisqu'on est au sein même de l'institut en fait, de recherche. Donc en effet, on est venu avec une équipe et derrière, en effet, il y a eu du montage. Et ça a été difficile de garder 7 minutes. Tout est intéressant dans ce projet. Et puis vous êtes bon aussi professionnellement. Vous avez pu bien parler. Il n'y a pas eu beaucoup de choses qu'on n'aurait pas pu prendre aussi. Donc c'était compliqué de faire un choix avec votre professionnalisme, vous aussi. Hein. Donc voilà. Et je ne sais plus si...
Non, mais voilà. Si tu réponds à la question.
Voilà.
Et alors, deuxième, après, je donnerai la deuxième question. Enfin, moi... Toujours dans ce qui m'a un petit peu étonné et nourri, c'est le rapport aussi au régime juridique. C'est-à-dire, bon, c'est un problème qu'on connaît bien, le droit à l'image. C'est-à-dire que ce que vous savez pas, c'est que on a eu des échanges de mails, mais je les compte plus, pour savoir jusqu'à la couverture du fanzine, qui est-ce qu'il faut contacter pour avoir le droit. Donc vous imaginez bien, compte tenu du nombre de documents qui sont montrés, d'images, de rapports aux compositions musicales, etc., c'est un boulot incroyable. Hein, donc ça aussi, alors je pense que ça intéresse nombre d'entre nous parce que ça devient de plus en plus compliqué. Y compris pour les publications, de choper une image, même une case de BD des fois ou n'importe quoi. Enfin bon, donc on est aussi dans quelque chose qui intéresse la fabrique de la science, D'une certaine manière, et la construction de nos regards, c'est la norme, en fait, la loi, la propriété, etc. Donc, tu peux nous dire un ou deux mots là-dessus.
Déjà, je vais vous remercier, parce que c'est vrai que ce n'était pas facile pour vous sur un terrain de recherche sur le punk, où l'image, elle est faite dans l'instant présent. Elle est conservée. Et puis, en plus, on demande à l'auteur, au graphiste qui est sur le fanzine, à celui qui a pris la photo, en termes juridiques, chez nous, c'est assez béton. Hein, on a un système, un service de documentaliste. Et donc, il y a le droit d'auteur, droit à l'image, droit du document. Je dois rendre des comptes. Et je vous remercie parce que c'est vrai que ça a été fastidieux sur le punk, qui est les auteurs sont plus là pour beaucoup, donc il a fallu faire une recherche, en fait une vraie enquête sur qui a pris la photo, qui est l'auteur, qui est le graphiste, et vous êtes prêté au jeu vraiment jusqu'au bout, alors que c'était quand même très lourd en termes de temps passé à vous demander qui est qui. Voilà, c'était un peu c'était particulier, et c'est vrai que le terrain de recherche était pas facile là-dessus pour avoir les archives parce qu'une archive pour un scientifique, c'est pas une archive de diffusion, et nous, quand on diffuse, on se doit de respecter certains droits que vous avez peut-être pas à respecter en tant que chercheur, parce que vous les gardez pour votre propre connaissance, mais à partir du moment où nous on diffuse sur internet, il faut qu'on respecte vraiment l'image de la personne qui a fait le graphisme, l'image du photographe et tout ça. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup, parce que c'est vrai que ça a été un challenge.
Juste une seconde, c'était que voilà, c'était par rapport à tes autres. C'est rare aussi, peut-être, à préciser que tu fasses des documentaires, enfin des films, et que tu réalises des films sur de la recherche en train de se faire en sciences sociales, et que souvent c'est sur, comme on a vu après, qu'est-ce que tu avais dit, la vie sexuelle des fourmis, ou je ne sais quel autre sujet, les sauterelles, pour le CNRS, où le champ disciplinaire, même si c'est interdisciplinaire, ne t'autorise pas souvent à travailler sur des objets sociaux, il me semble, je ne sais pas.
En fait, il n'y a pas de... Comment dire ? Peut-être que proportionnellement, si on regarde, si on devait faire des statistiques, il y a peut-être moins, en effet, de documentaires en sciences humaines et sociales. Mais c'est pas par... par volonté. Je pense que... Voilà, c'est parce que... peut-être que ça... Voilà, c'est peut-être des sujets qui demandent beaucoup de temps, de présence, qui se gère avec beaucoup de tact, et voilà, parce que c'est un sujet parfois qui est sensible. Et dernièrement, il y a eu un sujet sur l'esclavage qui était un sujet aussi assez sensible, et puis un hommage à Jean Rouge qui est aussi un sujet sensible pour le CNRS particulièrement, puisqu'il est historique, et donc c'est difficile de s'attaquer en 5 minutes à un personnage comme ça. Mais en effet, oui, il y a un peu en proportion, il y en a un peu moins, mais c'est pas par volonté, c'est pas un choix. Ça demande un peu plus de temps, en fait. Et voilà, je répondrai comme ça à la question. Voilà. Mais en tout cas, il y a aussi la forme documentaire et film plus long aussi qui est proposé au sein de notre service. Voilà.
Tu as une question, Monique, aussi ?
Oui, donc je confirme que ça a été laborieux, les démarches, puisqu'on a participé un petit peu. Je voulais savoir, c'est pas forcément sur la méthodologie, c'était les retours que vous avez eus sur ce document un peu atypique. Quel type de retour vous avez eu ?
Moi, en termes de retour, j'en ai pas eu beaucoup, mais en tout cas, c'est un film qui marche très bien. C'est-à-dire qu'il est très regardé. Voilà, c'est un film qui est très regardé, donc il a il fonctionne bien. C'est un retour de la direction de la communication, donc c'est plutôt positif. C'est très partagé, en fait, vraiment. Alors.
Ah oui. Pour les retours, je me demandais s'il y a des commentaires sur YouTube.
Moi, j'ai pas regardé.
Moi, j'ai regardé les commentaires et les partages du site du CNRS et du Monde. Donc, le Monde, il n'y a eu quasiment aucun commentaire, à part quelqu'un qui disait « Ouais, vous ne travaillez pas sur l'Angleterre ni sur Vivienne Westwood ». Donc non, effectivement, ce n'est pas grave. Voilà. Sur le CNRS, alors, il y a eu... Donc, les réactions, elles sont plutôt favorables. Après, via Peindre, il y a comme d'habitude plein d'acteurs de la scène qui ont dit c'est absolument scandaleux de mettre le punk dans une boîte, ça sert votre business, enfin des trucs comme ça, mais en fait on a l'habitude. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on avait beaucoup beaucoup de remarques comme ça au début du projet, et là on en a de moins en moins. Mais il y a toujours les gens qui pensent que c'est notre fonds de commerce. Qu'on... voilà, donc... Bon, mais plutôt, c'est, effectivement, les réactions ont été plutôt favorables sur le mode. Et puis, ça nous a permis... Enfin, il y a des gens qui, du coup, ont pris contact avec nous. Par exemple, comment il s'appelle, Puicoyo, c'est ça?
Oui. Alors, suite au film, on a été contacté par Philippe Puicouyoul, qui est le réalisateur du film La Brune et moi, ça va parler à certains, qui est un film, c'est une œuvre de fiction, hein, mais qui a mobilisé beaucoup d'acteurs de la scène punk, notamment parisienne, mais française, dans les années 80. Donc bah, lui, il a vu le film, et on ne savait pas comment le contacter, bah, il nous a contacté. Et puis on a été aussi contacté par un collègue qui est physicien à l'Université de Bordeaux, astrophysicien, mais qui me dit, voilà, ça me parle, c'est ma jeunesse, et j'ai un collègue qui est aussi astrophysicien en Espagne, alors lui qui est carrément dans les réseaux punk espagnol basque. Donc ben voilà, on a comme ça une espèce de transversalité aussi des regards grâce à ce film, et on continue, ce qui est un aspect méthodologique aussi du projet fondamental, dans le sens anthropologique de la recherche, c'est la construction des réseaux. C'est-à-dire, voilà, petit à petit on progresse et on rencontre et on est contacté par des gens qu'on n'aurait pas eu. Et je t'en remercie, si on n'avait pas eu justement cet élément de médiation qu'est le film.
Et même à Bordeaux, la dernière fois, on en discutait avec Olivier Mathios, là, le bassiste des Hyènes, qui disait que lui, ça lui avait permis, il avait diffusé dans ses réseaux, que les gens comprennent vraiment ce qu'on fait. Parce que le site web, il est bien, mais il reste quand même assez pointu. Enfin, on a quand même des éléments scientifiques dessus, on va pas les... c'est un site de recherche. Alors que là, ça dit quand même les choses de manière... c'est de la vraie médiation, quoi, intelligente, mais quand même compréhensible par... tout le monde. Et du coup, c'est vrai que c'est important, ce genre de démarche qui montre que, et puis montre que la science, c'est pas quelque chose qui a à faire peur aux gens, en fait. C'est,
hein. Et j'en profite, et là, c'est pour vous, scientifiques et chercheurs. Et en fait, chaque film, donc même des films... Bon, j'en profite pour dire qu'il y a des films beaucoup plus longs aussi, hein, des 26 minutes et tout ça. Mais quelle que soit la durée des films, en général, ce qui arrive souvent, c'est que la recherche continue avec le film, parce qu'elle est, elle rapproche, elle rassemble. Elle rassemble pour des débats, elle rassemble. Et à l'autre bout du monde, les gens sont intéressés et se connectent plus facilement à travers ce média filmique. Et donc là, j'en profite pour dire qu'au CNRS, il y a un GDR qui vient d'être monté, qui était là bien présent et qui s'appelait Anthropologie visuelle, qui était monté par Jean-Paul Collen et Boris Petri, qui sont réalisateurs et qui sont réalisateurs chercheurs surtout, qui sont chercheurs et réalisateurs et qui défendent une recherche filmique surtout. Donc des films pour la recherche aussi, et ça s'avère véritablement ça, c'est que la recherche continue pendant et après le film, voilà. Et c'est tant mieux, et je suis contente.
Merci à vous. Beaucoup, Alexandra.